les eaux fleurissent. Ris, entre la vie est un délice. Ris, bambelle d'enfant, regard complice.
Les éclats de lyre. Une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 17 et 18 mai au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio.
Les éclats de lire.
Pour mieux connaître la littérature jeunesse et ses acteurs. Quel enfant étiez-vous ?
Timide et rêveur, souvent amoureux.
Quel livre pourriez-vous relire 100 fois ?
L'arbre généreux de Shel Silverstein.
Quel livre vous a bouleversé ?
Tant. Dans mes dernières lectures, on m'appelle Demon Copperhead de Barbara Kingsolver.
Quel livre auriez-vous voulu écrire vous-même ?
Tant. Au hasard, La double vie de Cecil Rhodes-Knight de Jenny Valentine.
Parmi les autres êtres vivants, qu'auriez-vous aimé être ?
Un arbre généreux.
Je suis
Alex Cousseau.
Bonjour Alex Cousseau, est-ce que vous allez bien ?
Oui, très bien, très bien.
Superbe. Aujourd'hui, avec vous, j'avais envie qu'on parle un petit peu de voyage et on va voir qu'il y a plusieurs manières de voyager. Est-ce que vous-même, vous êtes un grand voyageur ou juste un voyageur tout court peut-être ?
Grand voyageur, certainement pas. Voyageur, assez peu finalement. J'aime bien bouger, mais je suis jamais allé très très loin. J'ai pas fait de très grands voyages, donc je peux pas dire non. Après, là, on est en train de parler voyageur dans la réalité, parce que dans les livres, évidemment, dans l'imaginaire, c'est tout autre chose.
Et oui, nous, en tant que lecteurs, on sait qu'on peut voyager par la lecture. Et vous, peut-être qu'en écrivant aussi, il y a une part de voyage qui se forme déjà ?
Ouais, c'est ça. C'est, alors, autant par la lecture que par l'écriture, j'ai du mal à séparer les deux. Mmh. Je lis beaucoup, je lis énormément, et par les livres, ouais, je découvre... alors, à la fois, je découvre d'autres contrées, d'autres endroits, mais aussi d'autres... des personnes que je n'aurais pas rencontrées forcément dans la réalité. C'est un peu un accélérateur de vie, j'ai envie de dire, de rencontre. C'est vrai pour la lecture, mais j'ai la même impression pour l'écriture. Je m'échappe facilement par les mots.
Et alors, on va le voir dans vos romans et dans vos albums, on va explorer plein de lieux et plein d'époques différentes aussi. Alors pour l'époque, non, vous n'avez pas voyagé dans le temps, mais est-ce que pour les lieux, ça peut vous arriver d'aller découvrir avec vos yeux un lieu pour pouvoir mieux en parler, ou alors c'est juste un gros travail de documentation ?
Ouais, c'est surtout de la documentation. En fait, j'ai commencé ce genre de récit, on va dire d'aventure ou de voyage ou d'aventure, suite à une remarque, alors j'ai oublié depuis, puisque ça fait plus de 15 ans, qui avait parlé comme ça, mais j'avais entendu à la radio un écrivain qui disait: on ne peut parler que de ce qu'on connaît, on ne peut pas parler d'un
oui,
pays.
Oui,
d'un
oui, on
lieu.
Disait ça avant, oui.
Ouais, et en fait, alors au départ ça m'avait intimidé, puisque moi j'avais bien envie quand même de le faire, et puis après je me suis dit, ben, c'est bon quoi, ça va, on peut. On peut peut-être essayer quand même. Donc j'avais commencé par un roman qui s'appelle Je suis le chapeau, qui se passe dans le Grand Nord, notamment au Groenland. J'y ai jamais mis les pieds, mais effectivement, bah, par la documentation, j'ai eu l'impression vraiment de pouvoir approcher, on va dire, d'abord un imaginaire, et puis... un peuple, une histoire, etc.
Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus de ressources pour pouvoir se documenter sur des ailleurs comme ça.
Ouais, ouais. Après, pour moi, il y a deux sortes de documentation. En fait, il y a la documentation express par Internet, où quand je cherche quand j'ai une question très très précise, bah, j'ai la réponse sur Internet. Mais j'aime bien me documenter encore à l'ancienne, par les livres, en fouillant et en trouvant pas tout de suite, et même en trouvant pas du tout, et en trouvant autre chose que ce que je cherchais.
Oui, puis on s'imprègne aussi des ambiances.
Ouais, exactement.
Il y a plusieurs voyages dans Courir le vaste monde. C'est votre dernier roman qui... Alors, on enregistre cette émission un petit peu en avant, mais qui est sorti du coup le 5 mars aux éditions du Rouergue, que j'ai eu la chance de lire en avant-première et que j'ai adoré. Déjà, le premier voyage, pour moi, c'est vraiment un voyage dans la Bretagne du XVIIIe siècle, où on apprend pas mal de choses, comment les gens vivaient, certains métiers, par exemple le métier de chiffonnier. Comment est-ce que ça se prononce? C'est les pilawer?
Les pilawer, ouais, en breton, ouais. Oui, moi, alors moi j'en avais entendu parler comme ça plusieurs fois parce que je vis en Bretagne. Mais là, oui, en me documentant, ça m'a intéressé aussi. D'ailleurs, au passage, j'avais déjà, c'est un métier que j'avais déjà fait figurer dans un autre roman qui s'appelle Le Fils de l'ombre et de l'oiseau, qui se passe en Amérique du Sud. Et c'était plus lié à l'époque, mais je m'étais retrouvé aussi avec une documentation sur des chiffonniers. Donc me voilà avec une deuxième fois un chiffonnier.
Alors ils font quoi ces chiffonniers? Pourquoi ils vous intéressent?
C'est plus que le chiffon ou le chiffonnier, c'est l'idée, je pense que ce qui m'intéresse, c'est l'idée de récupérer des choses et d'en faire autre chose. Parce que c'est un petit peu ce que je fais finalement aussi, je récupère des trucs qui traînent par terre, enfin qui traînent, que je récupère par hasard ou enfin au hasard de mes recherches, et puis en faire autre chose, parce que c'est un peu ça quand même le chiffon, quoi. On en fait après du papier, on en fait tout un tas de trucs, et ça j'aime bien, ouais, cette idée.
Alors de la campagne bretonne, on va ensuite arriver à Brest en suivant le parcours d'une jeune fille, d'une adolescente qui arrive pour la première fois dans la ville et on va la voir avec son regard tout neuf. Et il y a un passage que j'adore. Elle n'est jamais rentrée dans une maison avec un étage, elle n'a jamais vu d'escalier. Et elle s'étonne de voir un escalier. Comment ça vous est venu cette idée-là?
Bah ça, c'est vraiment dans la documentation. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu vertigineux, mais de se dire que, bah oui, à l'époque, il n'y avait pas de maison à étage. Enfin, sauf, il y avait très peu de maisons à étage, mais là je parle de la campagne. Dans la campagne profonde, à part des maisons de nobles, il n'y avait pas d'escalier, ou éventuellement un édifice religieux, quelque chose comme ça. Et donc on pouvait passer à côté de ce qu'est un escalier. On connaissait l'échelle, mais pas l'escalier. Il y a plein de petites choses comme ça. Alors en fait l'idée, oui, c'est d'essayer de se mettre à la place de mes personnages, quoi, pour avec leurs yeux découvrir ça, quoi, ce qu'est un escalier, ce qui nous paraît si évident aujourd'hui.
C'est très poétique parce qu'un peu plus tard dans la même journée, elle apprend également le mot équinoxe et du coup elle associe escalier et équinoxe. J'ai appris ces deux mots le même jour.
Ouais. Mon personnage, là on parle du narrateur, de la narratrice. J'ai mis du temps en fait à trouver à trouver sa voix, VOX. D'ailleurs aussi pour des histoires de documentation, c'est-à-dire qu'à l'époque, une jeune fille de 15 ans qui vit à la campagne, elle écrit pas, elle lit pas, elle écrit pas. Pour que ce soit quand même crédible tout ça, il a fallu que je malmène un peu la réalité, enfin que j'arrive à rendre ça crédible. Les mots pour un personnage comme ça, pour qui c'est pas évident l'usage des mots, bah il fallait que je trouve une langue et puis une façon de voir le monde aussi. Donc on en arrive aussi la curiosité des mots, et puis qu'est-ce que ça renvoie, qu'est-ce que ça révèle. Enfin, on parlait de l'escalier ou l'équinoxe, le vertige en apprenant tout ce qu'il y a derrière ces mots-là, tout ce que ça cache.
Ouais, et après, alors, on embarque. C'est complètement un roman d'aventure, et là, il y a un très grand voyage qui se fait de Brest jusqu'aux îles Kerguelen. Et là, on apprend un peu l'histoire assez fascinante de la découverte de ces îles. Alors, à la base, on s'attendait à découvrir autre chose. Hein. Java la Grande, c'est l'Australie.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Et finalement, ils découvrent ces îles Kerguelen. Alors, pour les situer, c'est en plein milieu de nulle part. Et c'est des îles qui ne sont pas du tout habitées, même aujourd'hui, je crois qu'il y a 1200 habitants, c'est très peu, et qui sont pas très, il ne fait pas très bon vivre dessus, quoi. On les appelle les îles de la désolation.
Ouais, c'est pas au milieu de nulle part, c'est au bout de nulle part, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas au milieu, c'est vraiment tout au sud, à l'extrême sud de l'océan Indien. Mmh. Et c'est pas des îles habitées, en fait, c'est des îles habitées juste momentanément par des scientifiques. Il y a une base scientifique, en fait. Mmh. Et moi, j'ai découvert cette histoire très tard. En fait, j'ai découvert cette histoire quand j'ai commencé à écrire ce roman, il y a à peu près 4 ans. Grâce à mon fils, ou à cause de mon fils, je ne sais pas. En fait, il avait postulé, faisant des études de naturalisme, enfin pour faire simple, on va dire de naturalisme, dans l'ornithologie, etc. Il avait postulé pour une mission dans les TAF, les terres australes et antarctiques françaises, à plusieurs endroits, notamment les îles Kerguelen, mais aussi la Terre Adélie, l'île Crozet, l'île Amsterdam, enfin toutes ces terres australes et antarctiques. Et dans sa lettre de motivation, plutôt dans ses lettres de motivation, puisqu'il postulait à plusieurs endroits, je lui avais suggéré de faire un petit paragraphe pour distinguer un peu les endroits où il postulait, parce que je me disais que ça allait être la même personne qui allait lire ses différentes lettres de motivation. Et je me suis pris au jeu, parce qu'on s'est intéressé ensemble à ces endroits. Et là, j'ai découvert l'histoire des îles Kerguelen et de leur découverte. Et tout de suite, mais vraiment tout de suite, je me suis dit, il y a un roman à faire avec ça. Donc voilà, je me suis attaché à atteler à la tâche. Et 4 ans après, ça donne ce roman.
Et c'est très documenté en plus.
Ouais, alors en plus, c'était un... j'ai lu pas mal de bouquins sur les îles Kerguelen, et puis c'est un voyage pour le coup que je partage avec mon fils, puisqu'il a continué de postuler pour aller là-bas. Il n'est toujours pas allé là-bas, mais il a failli l'année dernière. Il compte bien encore y aller.
D'accord.
Au final, il s'en est rapproché un peu, puisqu'il est en ce moment sur l'île de la Réunion pour une autre mission. Mais c'est un voyage qu'on fait parallèlement, lui et moi. Mais ça prend du temps pour approcher. Enfin, moi, j'ai toujours pas mis les pieds, pour le coup. J'ai juste écrit un roman qui se passe là-bas.
Ce roman, Courir le vaste monde, c'est aussi un roman initiatique. Et alors, je sais pas si je me trompe, j'ai l'impression qu'en général, il n'y a pas forcément de retour dans les romans initiatiques, mais là, si. C'est-à-dire que les personnages, ils font le tour du monde et ensuite, ils rentrent chez eux.
Ouais, ouais.
C'est important, ce retour.
J'avais envie de boucler la boucle, ouais. Mmh. En fait, je voulais pas m'arrêter aux îles Kerguelen, parce que j'avais envie de passer aussi. Alors là, je respecte, on va dire, les événements. J'avais envie de continuer sur ces bateaux qui ont découvert pour la première fois ces îles, et donc d'arriver à Java la Grande, l'Australie, qui ne s'appelait pas encore l'Australie. J'avais envie d'évoquer aussi cette histoire, parce que cette histoire, elle est aussi quand même assez vertigineuse. L'Australie aurait pu être française, en tout cas pour la moitié occidentale. Il y a eu une prise de possession, comme on disait à l'époque. On a pris possession de ces terres quelques mois, quelques semaines même après les îles Kerguelen. Donc j'avais envie de parler de ça aussi, même si je l'évoque seulement. Et puis, boucler la boucle, c'est aussi revenir en Bretagne, même si on y revient presque, mais bon, on est sur le chemin. C'est un peu comme une trajectoire, en fait. J'aime bien penser les romans comme des trajectoires, et là, je voyais une boucle, quoi. Je voyais un cercle.
Mais dans lequel les personnages ont évolué. J'aime bien parce que, lisons, cette jeune fille, au début... Elle veut partir de chez elle, puis finalement elle a peur, finalement elle part quand même. À un moment, elle dit, c'est à la page 45, « Pour partir, il me manque encore une impulsion. Plus j'attendrai, plus cette impulsion devrait être forte. » Donc elle sait toute sa vie qu'elle doit partir, qu'elle va partir. Finalement, quand on lui propose d'aller à Brest, elle traîne un peu des pieds. Et finalement, c'est elle qui se lance, qui se jette sur un bateau comme passagère clandestine.
Ouais, mais c'est un peu par la force des choses aussi, parce que même si elle a pensé à la chose, elle l'a pas non plus elle l'a pas programmé, elle l'a pas planifié. Ça se fait à la fois malgré elle et puis quand même avec son assentiment puisqu'elle avait ça en tête. Mais c'est les deux à la fois. J'aime bien cette idée, ouais. Mmh. Ouais.
Et puis c'est vraiment un personnage très humain qui, à la fois quand on part en voyage, on a peur de partir. Et quand on revient, il y a aussi l'impréhension de rentrer à la maison. Elle le dit, je ne suis pas sûre que je serai encore à ma place là-bas.
Oui, je ne me rappelais pas qu'elle disait ça. Mais ouais,
par rapport
ouais,
à tous les souvenirs qui encombrent.
Oui, bah alors oui, être à sa place, pas facile, c'est une rude question.
Merci beaucoup, on fait une petite pause musicale et on revient.
D'accord.
Alex Cousseau, vous nous avez proposé d'écouter ce morceau. Est-ce que vous avez envie de le présenter ?
Le présenter. C'est une chanteuse dont j'aime beaucoup la voix, Beth Gibbons, je ne sais pas si je prononce comme il faut, qui était la chanteuse de Portishead. Mais j'aime bien les deux, enfin à ma connaissance il n'y en a que deux, les deux disques qu'elle a réalisés toute seule. Et celui-ci c'est le dernier, je l'ai découvert l'année dernière. Enfin, c'est surtout ce morceau que j'ai découvert l'année dernière, que j'ai écouté en boucle. Je le trouve très beau, j'aime bien sa voix. Et puis j'aime bien aussi, dans le titre, il y a Floating, hein, Floating on a Moment. J'aime bien cette idée de flotter, ça me va très bien, même par rapport à mon écriture, pour y revenir, je trouve que ça me parle beaucoup.
Merci beaucoup, ça m'a bien parlé aussi, c'est très joli effectivement. On va continuer notre voyage dans votre écriture. Donc là, on a parlé d'un roman ado, mais vous ne faites pas que ça, vous écrivez aussi des albums pour la jeunesse. Et chez Le Rouergue, dans la même maison d'édition, cette année, enfin l'année dernière du coup, en 2024, vous avez publié avec Charles Dutertre un très bel album qui s'appelle Indigo et qui va reprendre un petit peu des thématiques similaires. Est-ce que les deux écritures de ce livre et de cet album étaient conjointes ?
Pas du tout, non. En fait, tous les albums, tous les livres que j'ai pu faire avec Charles Dutertre, c'est pas forcément toujours moi qui suis à l'origine, parce que je suis l'auteur, je serai à l'origine du texte. Ben non, en fait. Mmh. Là, le thème et l'idée, c'est vraiment lui. Alors, il habite tout près de Nantes. Il a découvert un peu par hasard tout près de chez lui un cimetière, quelques tombes au milieu d'un parterre. Entouré d'immeubles, tout ça, enfin, il trouvait ça très étrange. Il s'est renseigné un peu, puis il s'est rendu compte que c'était un cimetière d'une famille d'indienneurs. Alors les indienneurs, pour ceux qui ne connaissent pas...
Oui, encore un vœu mietté qu'on va découvrir avec vous.
Ouais, donc les indienneurs, alors moi j'ai découvert avec Charles, pour le coup, parce que je ne connaissais pas toute cette histoire, mais c'était ceux qui faisaient des indiennes, des toiles imprimées, façon indienne, et ces toiles étaient utilisées pour aller ensuite acheter des esclaves. Donc on est au 18e siècle. Et donc il y a des familles comme ça qui se sont enrichies à fabriquer des indiennes pour ce commerce très particulier. Donc après, forcément, avec l'abolition de l'esclavage, tout ça, on va dire que toute cette histoire a été mise un peu sous le tapis. Et voilà, donc Charles me présente cette histoire. Il avait trouvé de la documentation, pour le coup, qu'il me transmet. Et il me dit, j'aimerais bien faire un album avec ça. Alors lui, je vois très bien ce qu'il voulait faire tout de suite, c'est qu'il imaginait le côté graphique, pictural de la chose. Il voyait comment les images qu'il pourrait faire avec un album pareil. Mais moi, je voyais pas du tout. Donc, on a mis beaucoup de temps à
trouver l'angle pour aborder
cette
histoire.
Ouais, à trouver l'angle, exactement. Ouais. Je me rappelle même pas à quand ça remonte, mais c'était, je dirais, il y a au moins 8 ans qu'il m'a parlé de ces indienneurs. Et puis, petit à petit, j'ai écrit une histoire. Je suis revenu aussi à l'histoire de l'esclavage. En fait, la difficulté aussi, c'est comment raconter une histoire comme ça pour les enfants, quoi. Parce que notre public, là, c'est les enfants. Enfin, c'est les enfants et les autres. Et voilà, donc on a un personnage, un narrateur, Gaspard, qui découvre avec nous tout ça. Il est fils d'indienneur et il découvre que... on va dire la face sombre des choses, mais aussi peut-être ce qu'il y a derrière, que des gens sont pas d'accord, que des gens peuvent résister, et comment on peut résister. Alors lui, à sa façon, il va le faire aussi, il va le faire par l'imaginaire, ce qui me parle bien. En fait, je trouve qu'on est aujourd'hui dans un monde où tout va un peu de travers. On est nombreux à se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut résister, comment on peut faire quelque chose. Et en fait, l'imaginaire, c'est un angle auquel on pense pas toujours, mais qui me semble vraiment intéressant pour ça aussi. L'imaginaire, c'est pas le contraire de la réalité, c'est c'est la réalité et autre chose. C'est des possibles et des impossibles. C'est tout à la fois. Et ça, je trouve que c'est bon, ça permet plein de choses. Ça ouvre plein de portes, je trouve.
Et donc cet album permet de montrer plusieurs manières de se révolter contre ça. Il y a l'autre, c'est le témoignage aussi.
Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
Sa famille va se servir de ses toiles pour raconter ce qui se passe de manière très discrète, mais finalement, petit à petit, les gens vont savoir.
Ouais, bah c'est ça. Bah, en fait, c'est les deux. On va dire que c'est les deux angles, le témoignage et puis l'imaginaire.
Et donc les idées voyagent par ce témoignage. Merci beaucoup, Alex Cousseau. C'est malheureusement déjà la fin de cette émission. Et du coup, on pourra se revoir au mois de mai au Vigan pour les éclats de lyre.
Eh ben avec plaisir.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Les éclats de lyre, une émission de radio. Le troisième mercredi du mois à 15h30, rediffusé le dimanche qui suit à 11h. Les éclats de lyre, une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 17 et 18 mai au Vigan.